La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Kateb Yassine se décrivait comme un personnage insupportable et imprévisible. Il a vécu en errance entre l'Algérie, la France, mais aussi l'Italie et des moments en Espagne, au Vietnam et en URSS. Il a été prisonnier politique, il a fait tous les métiers, de vendangeur à maçon et veilleur de nuit. Il a côtoyé Sartre et Beauvoir, Armand Gatti, Jean-Marie Serrault. Il a été amoureux plusieurs fois, de nombreuses fois même, et il a eu des enfants. Tout cela, nous en parlions hier avec son biographe et ami Benamar Medienne au cours d'une émission à retrouver en podcast. L'œuvre de Kateb Yassine, elle touche à de nombreux genres, le roman, la poésie, le journalisme. Mais le théâtre a peut-être pris une place particulière dans sa vie. C'est ce que nous demanderons demain à l'artiste et docteur en littérature Rabah Soukeal. Enfin jeudi, nous nous interrogerons en particulier sur la réception de Kateb Yassine et son œuvre, sa reconnaissance à la fois en France et en Algérie. Ce sera à travers notamment l'épisode de 2003 où il a été joué à la Comédie Française dans des conditions controversée, vous l'entendrez. Et aujourd'hui ?
Bonjour ma vie, bien vous mes désespoirs, me revoici au fossé, on a qui ma misère. Voici le coin de boue où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.
Aujourd'hui, pour parcourir l'œuvre de Kateb Yassine, nous sommes avec Charles Bonne, ancien professeur à Constantine, Fès, Lyon, Paris et Leipzig, auteur d'un essai intitulé « Lecture nouvelle du roman algérien » publié en 2016 chez Classique Garnier. On lui doit également le livre « Kateb Yassine Nejma » disponible aux éditions de l'Harmattan. Bienvenue donc dans la compagnie des auteurs. Elle commence, vous l'entendez derrière moi, par un poème de Yassine mis en musique et chanté par son fils Amazi.
Paladin solitaire, et je sais que ce soir monteront des chants infernaux au hurlement des vents par les cris de décembre, au hurlement des vents par les cris de décembre. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé, una qui ma misère. Voici le coin de boue. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.
Bonjour, un poème écrit à l'âge de 15 ans et chanté donc par le fils de l'écrivain qui est leader du groupe Nawa Diffusion. Bonjour, mais cette fois à vous Charles Bonne. C'est donc un bon début, je pense, pour cette émission, ce poème d'adolescence, pour présenter l'œuvre de cet homme, cet écrivain, parce qu'il semble avoir toujours été un poète, et le fait qu'on puisse entendre ce poème écrit à 15 ans est une sorte de preuve, Charles Bonne.
Oui, tout à fait. Parler du poème qu'on vient d'entendre chanter, oui. Oui, bien sûr. Il se trouve que j'ai eu la chance de recevoir les manuscrits de Kateb quand il avait 15 ans. À l'époque, enfin entre 15 et 17, c'est-à-dire à l'époque où il a été enfermé après les manifestations du 8 mai 45.
Donc ce poème, il date d'après Sétif et d'après la prison. Selon vous.
Et ça, alors ce poème, je l'ai pas reconnu. Hein, je ne sais pas si j'ai pas bien entendu, et donc j'ai pas reconnu ce poème-là. Mais bon,
enfin, ils datent tous à peu près, en tous les cas, de ce moment de son adolescence. Quoi.
Oui, ça date effectivement de son adolescence. C'est l'entrée dans un militantisme qui n'est pas encore un militantisme d'adulte. Hein, il a été entraîné un petit peu malgré lui, même si il y a un enthousiasme adolescent. Mais c'est vrai que le 8 mai 45, toute cette époque-là, c'est l'époque fondatrice pour lui. Hein, c'est-à-dire que c'est là que tout s'est dessiné et que c'est dessiné à la sortie de prison, puisque en fait il avait participé sans trop savoir, parce que c'était un peu l'enthousiasme adolescent, il avait participé à la manifestation du 8 mai 45. Il faut peut-être dire,
on en a parlé un petit peu hier, oui, mais si ça, vous voulez, on peut en dire un mot.
C'est le moment essentiel, et c'est vrai que Benhamar hier en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais cette manifestation est véritablement le moment fondateur. Et l'entrée, mais également la sortie de prison a amené à la rencontre de celle qui deviendra Nejma dans le roman.
Alors on va parler de ce grand roman, oui. Nejma. Ce que la prison amène aussi, c'est quand même la rencontre avec le peuple algérien.
Oui. Là, il y a effectivement la version, je dirais, bien entendu, c'est la rencontre avec le peuple, ça a été dit par Kateb lui-même, ça a été décrit dans le roman Nejma. Hein. Dans le roman Nejma, il y a la rencontre de Lardar avec tous ces opprimés qui ont été...
Lardar qui est le personnage qui pourrait incarner peut-être Kateb Yassine.
Les quatre. Les quatre héros principaux du roman peuvent incarner, c'est pourquoi on a parlé d'autobiographie plurielle. Mais enfin, je dirais que les deux qui l'incarnent, je crois qu'il faut dire les quatre.
D'accord.
Disons, celui qui l'incarne peut-être le moins, c'est Mourad. Mais Mourad, quelque part, incarne aussi le côté amoureux, un petit peu fou, un petit peu irresponsable. Et donc, les quatre personnages le représentent.
Mais est-ce qu'ils sont vraiment incarnés, d'ailleurs, ces quatre personnages? Parce qu'ils sont presque parfois un petit peu interchangeables. Ils n'ont pas de caractéristiques très, très précises. On ne peut pas dire que ce sont des idéotypes, quand même, de personnages, si?
Si, ce sont des... disons qu'on a un certain nombre d'études ont montré, et puis moi, ça c'est quelque chose à quoi je me rallie. Il y a une nette différenciation entre deux groupes dans ces personnages. Mm-hmm. Il y a d'un côté les personnages citadins, que sont Rachid et Mourad, qui sont préoccupés par des questions qui n'ont aucun rapport avec la politique. Et d'un autre côté, les campagnards, que sont Lardar et Mustapha, qui eux sont ceux qui ont participé au mouvement du 8 mai 45, qui sont donc les personnages les plus politisés.
Il y a toujours cette dichotomie, de toute façon.
Il y a toujours une dichotomie. Tout le roman, Nejma, fonctionne sur un ensemble d'oppositions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un récit dans Nejma. Si, il y en a peut-être un ou deux, mais disons la plupart des récits, parce que il faut peut-être dire quelques mots de la construction.
Je préférerais qu'on y revienne un petit peu plus tard, parce que on va beaucoup parler de Nejma. C'est vrai que c'est l'œuvre principale et vous la connaissez très bien, Charles Bonne. Mais je voudrais qu'on dise d'abord un petit peu pour resituer pour les auditeurs Kateb Yassine dans la littérature algérienne. Est-ce qu'il est, selon vous, réellement l'un des fondateurs de cette littérature-là, ouais, aujourd'hui?
Oui, disons qu'il fait suite au premier. Il y a eu quelques écrivains algériens isolés dans les années 30, entre autres Jean Amrouche et quelques autres, mais on peut parler de littérature algérienne comme mouvement d'ensemble à partir de 1952-53. Avec un écrivain qui est, et tout le monde se met un peu d'accord là-dessus, qui a été le premier à être reconnu comme tel, qui est Mouloud Feraoun. Mm-hmm. Avec Mouloud Mamri également, et Mohamed Dib, bien que Dib soit déjà plus politisé. Kateb est arrivé avec Nejma en 56, et a complètement, ce roman a complètement bousculé la tradition de l'écriture du roman.
En Algérie ou dans le monde ?
Essentiellement en Algérie, hein, mais de toute façon en Algérie il n'y avait pas de tradition du roman, hein, mais essentiellement ça a bousculé par rapport à la tradition romanesque qui elle est européenne et casser les structures du roman réaliste. Alors bien sûr c'est l'époque du nouveau roman, mm-hmm, hein, et donc certains critiques ont essayé de faire le rapport avec le nouveau roman et je les suis en grande partie, même si ce n'est pas du tout l'avis de la plus grande spécialiste qui est décédée depuis bien longtemps maintenant de l'œuvre de Kateb Yassine, qui est Jacqueline Arnaud. Oui. Alors elle dit non, aucun rapport avec le nouveau roman.
Alors on va déjà écouter un petit extrait de Nejma et puis on va continuer sur cette thématique, Charles Bonne.
Toute petite, Nejma était très brune, presque noire. C'est de la chair en barre, nerfs tendus, solidement charpentés, de taille étroite, des jambes longues qui lui donnent quand elle court l'apparence des calèches hautes sur roues qui virent de droite et de gauche sans dévier de leur chemin. Vastitude de ce visage de petite fille. La peau d'un pigment très serré ne garde pas longtemps sa pâleur native. L'éternel jeu de Nejma est de réduire sa robe au minimum, en des poses acrobatiques d'autruche enhardie par la solitude. Sur un tel pelage, la robe est un surcroît de nudité. La féminité de Nejma est ailleurs. Le premier mois d'école, elle pleure chaque matin, elle bat tous les enfants qui l'approchent, elle ne veut pas s'instruire avant d'apprendre à nager. À 12 ans, elle dissimule ses seins douloureux comme des clous, gonflés de la mère précocité des citrons verts. Elle n'est toujours pas domptée. Les yeux perdent cependant de leur feu insensé. Brusque, câline et rare Nejma. Elle nage seule, rêve et lit dans les coins obscurs, amazone de débarras, vierge en retraite, cendrillon aux souliers brodés de fils de fer. Le regard s'enrichit de secrètes nuances. Jeux d'enfants, dessins et mouvements des sourcils, répertoire de pleureuses, d'almées ou de gamines. Épargnée par les fièvres, Nejma se développe rapidement comme toute méditerranéenne. Le climat marin répand sur sa peau un hâle, combiné à un teint sombre, brillant de reflets d'acier, éblouissant comme un vêtement mordoré d'animal. La gorge a des blancheurs de fonderie, où le soleil martèle jusqu'au cœur, et le sang sous les joues duveteuses parle vite et fort, trahissant les énigmes du regard.
Lecture par Guillaume Gallienne dans la compagnie des auteurs d'un extrait donc du roman de Kateb Yassine Nejma que vous écoutez, Charles Bonne, avec un sourire qui fait plaisir à voir et qui est révélateur, une concentration aussi. Qu'est-ce que ça vous évoque ce texte ?
Disons que c'est la description de Nejma, elle est superbe cette description. Quoi. C'est un texte éminemment poétique.
Les deux.
Pardon ?
Poétique et politique.
Poétique et politique, mais je dirais que si on utilise une approche politique, ce que je fais bien sûr beaucoup, on est obligé de s'apercevoir que alors que les quatre personnages masculins du roman sont successivement narrateurs, avec de temps en temps une partie de narration faite par l'auteur lui-même, Nejma ne parle jamais, ne raconte jamais. Et du coup, elle est en permanence uniquement un objet fantasmé. Ce qui va très bien avec la dimension poétique de ce texte, bien entendu, hein, mais qui donne finalement peu d'éléments à une approche politique. Hein. C'est au contraire, cet extrait est intéressant parce qu'il va dans le sens de justement d'un amoindrissement du politique qui est un petit peu ma lecture plus récente du texte.
Parce que on a beaucoup lu, en effet, ce livre qui est paru pendant la guerre d'Algérie comme étant un livre politique. Vous allez peut-être nous dire comment on peut le lire comme cela aussi. Mais pour vous, ça n'est pas d'abord comme ça qu'il faut le lire.
Non. C'est-à-dire que, et là, ma réponse à votre question va rejoindre celle à votre question précédente. C'est-à-dire que le livre est fondateur parce que il casse le modèle romanesque français réaliste traditionnel. Ce qui fait que c'est à cause de ce bris du modèle du modèle romanesque qu'il est c'est un roman de rupture et de rupture avec le modèle romanesque. C'est un symbole de la colonisation, hein, parce que le roman, ça fait partie de la littérature française, ça ne fait pas partie du tout de la littérature arabe.
Et donc être au fondement de la littérature algérienne, c'est obligatoirement à cette époque-là être en rupture avec la littérature dite européenne, française ?
Ce n'est pas obligatoirement. Mais je pense que c'est à cause de cette rupture que Kateb peut être considéré comme fondateur.
Encore aujourd'hui, il est considéré comme
encore
fondateur ?
Encore aujourd'hui, oui. Encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui frappe tout le monde. Mais tout dépend comment on interprète cette rupture. C'est-à-dire que la rupture est, par exemple, le roman a été perçu comme un roman politique, alors que vous avez beau chercher, vous ne trouvez que trois lignes de discours politique.
Non, mais il y a quand même une confrontation entre les personnages algériens et les colons, tout simplement.
Voilà. Il y a confrontation au niveau de l'action. Par contre, il n'y a pas d'interprétation de cette action dans le roman. Il n'y a pas, par exemple, non plus de description dans le roman. Mais il n'y a surtout pas de... le seul passage qui donne une signification du roman, c'est dans la cinquième partie, une phrase de Mustapha qui dit, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, « Nous sommes la génération sacrifiée qui rampe à l'approche des lignes que d'autres après nous vont franchir. » C'est-à-dire que c'est la génération qui suit la nôtre qui va véritablement entrer en militantisme. Et notre génération, je dis notre génération pour dire la génération des héros du roman, eh bien, est la génération qui s'est fait écraser le 8 mai 45.
Et du coup, c'est dans les autres œuvres de Kateb Yacine qu'on va trouver la génération suivante, celle qui entre réellement en militance.
Oui et non, parce qu'en fait, ce sont les mêmes personnages. Ce sont les mêmes personnages qu'on trouve dans le théâtre, hein, et qui sont cette fois-ci engagés jusqu'à en mourir.
Alors c'est peut-être le moment de faire un petit détour, Charles Bonne, pour expliquer ce qu'on a beaucoup dit au sujet de Kateb Yacine, cette idée qu'au fond, il n'y avait un peu qu'une seule œuvre, une sorte de polygone, pour reprendre le titre du livre dont on parlera tout à l'heure, Le Polygone étoilé, qui est son deuxième roman. Et finalement, dans cette constellation-là, on retrouve toujours un petit peu les mêmes personnages. Alors c'est pas le retour des personnages à la Balzac, mais c'est la projection d'un univers dans différents champs, dans différentes œuvres.
C'est un des tout premiers critiques de la littérature maghrébine, celui, enfin, qui, moi, m'a fait gagner un an de travail. C'était un père blanc, Jean Desjeux. Il n'avait absolument aucun diplôme. Mais il détestait les écritures un petit peu complexes comme celle de Kateb. Il n'a jamais aimé Kateb. Et donc, il disait à qui voulait l'entendre que Kateb a roulé son éditeur en lui vendant quatre fois le même livre. Parce qu'effectivement, on a les mêmes personnages.
C'est peut-être le cas de beaucoup d'écrivains. Mais là, ça se voit encore plus que pour d'autres.
Et là, c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent. Mais précisément, moi, j'interprète ça comme une espèce de mythologie personnelle que l'on va trouver dans toute son œuvre, y compris dans le théâtre tardif, qui n'a plus rien à voir avec le théâtre dont il va être question demain, quoi, qui est un petit peu sur le modèle de la tragédie grecque, alors que le théâtre tardif, c'est de l'agite propre post-68 art, quoi.
Alors c'est quoi l'obsession, ou quelles sont les obsessions de Kateb Yacine qu'on retrouve tout au long de son œuvre?
Je crois qu'il y a l'obsession identitaire, ça c'est sûr. Hein, toute son œuvre tourne autour d'une identité, mais pas pour la définir. Hein, alors qu'on en a fait quelqu'un qui définissait l'identité contre l'oppression coloniale, etc. Eh bien, je montre justement que quand il tente de définir, ça rate toujours, particulièrement dans Nejma. Toutes les définitions identitaires vont rater.
Alors par exemple?
Par exemple, bon, en période coloniale, pour contrer la définition identitaire par le colonialisme, eh bien, il y avait à l'époque deux contre-identités possibles, soit l'islam, soit la tribu. Bon, la troisième et la quatrième partie du roman, qui sont les parties les plus difficiles à lire, hein, parce que ce sont celles qui portent sur l'origine, précisément, hein, et que l'origine, c'est quelque chose de très complexe, eh bien, dans la troisième partie, c'est le voyage à la Mecque que Rachid fait avec Simortar, voyage à la Mecque qui va être un échec puisque les deux personnages ne pourront pas sortir du bateau parce que l'un des deux est passager clandestin.
Donc s'il n'y a pas d'identité possible, on est dans un monde, le monde de Kateb Yacine, où il y a à la fois, si on regarde les choses positivement, une grande liberté, la liberté d'être celui qu'on désire être, mais aussi une grande solitude.
Oui. Alors en matière de liberté, je ne serais pas forcément d'accord avec vous, hein, parce que il y a une présence des pères particulièrement dans un long discours que Rachid fait à Mourad quand il lui raconte un petit peu sa vie avec ses mortards, où il montre que justement les fils qui sont les héros du roman. Héros est un terme qui n'est pas très approprié parce qu'ils sont
anti-héros du roman.
Hein, donc, est-ce que le héros est en permanence dans l'échec? C'est discutable. Mais quoi qu'il en soit, donc, dans ce passage qui est essentiel, Rachid montre à Mourad et donc au lecteur que, il n'y a pas de liberté possible parce qu'il y a toujours le fantôme des pères qui est là pour oppresser les fils et les empêcher de vivre leur propre vie.
Et pourtant, le père de Kateb Yassine, s'il l'empêche de vivre, c'est plutôt par son absence, parce que
alors là, oui, c'est le plus souvent par l'absence. Et les pères sont toujours absents. Mais ce sont les pères qui ont dilapidé la fortune en la dépensant avec des prostituées essentiellement, et qui ont abandonné en quelque sorte les fils. Les pères sont absents ou traîtres. Mm-hmm. Et c'est les pères qui ont permis la colonisation.
Donc c'est un peu une lecture psychanalytique
Ah oui, tout à fait.
Que vous faites.
Je débouche forcément sur une lecture psychanalytique qui est en rapport avec la dimension mythique et avec la tragédie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le théâtre de Kateb contemporain du roman, dans les années 50-56, 54-56, 57, et que ce théâtre est construit sur le modèle de la tragédie grecque, où il y avait plusieurs tragédies en même temps avec un intermède comique, et c'est la construction du cercle des représailles.
On reviendra sur cette idée de la psychanalyse un peu plus tard.
Il est vrai que Faulkner m'a beaucoup frappé quand je l'ai lu, et je crois que ce qui est important dans l'œuvre de Faulkner, c'est que, étant un Américain qui vit dans un État du Sud, même s'il a des conceptions assez éloignées des miennes, il a vécu son expérience d'écrivain avec une telle intensité, et il l'a si bien rendue qu'elle est devenue, même vue de l'autre côté du décor, vraiment exemplaire pour moi. Si vous voulez, il a fait tout le contraire de ce qu'a fait Camus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a exprimé, par exemple, chose très importante, Christmas, par exemple, l'un des principaux personnages de Lumière d'août. C'est un nègre assassin qui, en quelque sorte, on sent l'écrivain qui se bat contre son personnage, qui le hait même, qui essaye de l'exterminer, mais qui le grandit ce faisant, et qui en fait une espèce de personnage qui n'est pas un héros, mais qui est beaucoup plus qu'un héros. Ce qui prouve la sincérité réelle de l'écrivain, sans parler de son pouvoir d'expression, de son génie créateur. Alors là, effectivement, il y a eu chez moi une admiration et une adhésion réelle à la façon dont Faulkner épousait cette situation et créait surtout ce monde du sud des États-Unis qui était sacrifié par une Amérique beaucoup plus généralement connue, l'Amérique du Nord, la Grande Amérique, l'Amérique industrialisée, etc. Alors qu'au fond, la véritable Amérique, celle qui justement se fait jour maintenant avec les émeutes raciales, avec la violence qui affleure aujourd'hui, la vraie Amérique, c'est quand même celle de Faulkner.
Compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait d'un entretien de Kateb Yassine avec Lucien Hatoun en 1969. Donc on l'a dit, Charles Bonne, parmi les références qu'on peut essayer de prendre pour comprendre la littérature de Yassine, il y a le nouveau roman. Il n'est pas sûr qu'il ait lu Robe Grillée, peut-être, mais en tout cas il y a cette référence. Et parmi les références du nouveau roman, il y a Faulkner. Et parmi les auteurs que citait Kateb Yassine, le premier qu'il citait en général, c'était Faulkner.
C'est Faulkner, oui. C'est Faulkner, alors là... On touche à un problème que je vais pas développer parce que c'est vraiment une querelle de spécialistes entre Jacqueline Arnaud et d'autres critiques. Jacqueline Arnaud dit que le nouveau roman, non, Kateb n'y a jamais touché. Par contre, Faulkner, on le voit bien, c'est
il le revendique.
Il le revendique, et il le revendique d'abord parce qu'effectivement, il y a une situation, d'opposition de communauté dans l'œuvre de Faulkner qui est très comparable, sauf que, politiquement, Faulkner est plutôt du côté colon.
Oui,
Et ça n'empêche pas, c'est aussi quelque chose qui va invalider le fait qu'on ait fait de Kateb un modèle de décolonisation, etc.
Mais alors, ça c'est sur la vision du monde de Faulkner, mais qu'en est-il du style ?
Alors au niveau du style, oui. Au niveau du style, entre autres, le fait de faire raconter le roman par ses personnages... ça c'est forcément, et d'ailleurs Kateb l'a dit lui-même, et il le revendique, sauf que Kateb va plus loin que Faulkner. Chez Faulkner, lorsqu'on lit un chapitre, on sait quel est le personnage qu'il raconte, alors que chez Kateb, non.
Ça rend difficile la lecture de Kateb Yassine.
Et bien entendu, la lecture de Kateb, c'est pas une lecture facile. C'est la raison pour laquelle la première chose que je fais quand je fais cours sur Nejma, c'est essayer de décortiquer la structure du roman. Ouais. Et ce qui fait qu'après ça, on s'y repère mieux, quoi.
Bon, il y a Dos Passos aussi qu'on pourrait citer.
Voilà, Dos Passos,
dans le collage différents types de textes.
Tout à fait.
Par exemple, il y a des chapitres dans Nejma où on va trouver à la fois du théâtre, mais aussi des purs moments de poésie.
Ouais.
Alors, où se cache le réel là-dedans ? Où est-ce qu'on est quand même dans la relation par un homme de ce qu'il connaît, qui nous raconte ce qu'il a vécu ?
Il y a une très grande part d'autobiographie, bien entendu. Là, beaucoup de critiques ont parlé d'autobiographie plurielle.
Il l'a dit même lui-même que tout était dans sa littérature.
Il est dans chacun de ses quatre personnages.
Toute sa vie était principaux. Dans sa littérature.
Et Nejma, qui dans la réalité ne s'appelait pas Nejma, c'est lui qui l'a appelé Nejma, dans la réalité s'appelait Zulira.
Nejma, ça veut dire l'étoile ?
Alors Nejma, c'est l'étoile.
Ouais.
Nejma, c'est l'étoile, avec justement l'ambiguïté du symbole de l'étoile. Parce que l'étoile, c'est à la fois un symbole politique. Il y a un nombre incalculable de pays dans le monde qui ont une étoile sur leur drapeau. Et les pays arabes, en général, ont une étoile associée au croissant. Il y a cette dimension symbole politique. Mais en même temps, l'étoile, c'est des rayons qui partent dans tous les sens. Et donc, c'est le contraire du symbole statique. Et avec Nejma, Zulira, par exemple, était juive. Ce qui va également à l'encontre de pas mal de définitions, monoculturelles, quoi.
Il y a eu pas mal de femmes dans la vie de Kateb Yassine qui ont souhaité panser les plaies laissées par son amour originel pour Nejma. Parce que c'est peut-être ça aussi,
oui,
sa littérature.
Est-ce que c'est pour penser les plaies disons que Kateb n'était pas très féministe, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, j'ai connu moi-même au moins deux ou trois des femmes de sa vie qui se plaignaient de son côté macho.
Oui. On disait qu'il avait des amours successifs, il n'avait pas d'amour concomitant. Enfin, votre mou.
Je ne suis pas entré dans les
détails,
le
contraire.
Mais bon, je pourrais raconter certaines histoires. Je ne sais pas si ça apporterait grand-chose à la compréhension du roman.
Moi, je préfère qu'on revienne à la question de la psychanalyse, parce qu'on a commencé cette émission en se demandant, au fond, pourquoi est-ce que Kateb Yassine serait le fondateur de la littérature algérienne. Est-ce que c'est pas lui finalement qui est devenu le père de tous ces écrivains d'aujourd'hui, ces écrivains algériens ?
Tout à fait. Je prendrai un exemple très très concret. Longtemps après l'indépendance, dans les années 80 à peu près, il y a eu toute une production littéraire officielle en Algérie, dans les maisons d'édition, pilotée par le parti, etc. Et pas tous les romans qui ont été publiés dans ce contexte, mais disons les 9 dixièmes de ces romans et de ces nouvelles sont des catastrophes littéraires. Sauf, comme par hasard, ceux qui ont été préfacés par Kateb. C'est-à-dire que Kateb est devenu, pour les jeunes écrivains qui lui succédaient, il est devenu une sorte de marque à la fois d'opposition politique au régime, et surtout de qualité littéraire, d'exigence littéraire.
Vous pensez à qui, par exemple, comme écrivain ?
Je pense à des gens comme Rachid Mimouni, par exemple. Rachid Mimouni, je choisis lui parce que c'est un des rares qui ont été connus par la suite en dehors de ce cadre et qui ont donné une œuvre importante, quoi.
Est-ce qu'il a fait école ? Il a fondé une école sans le vouloir ?
Non, il n'a pas fondé d'école. C'est totalement impossible pour un personnage comme Kateb de fonder une école, quoi. C'est quelqu'un de trop. Disons, il se définissait lui-même comme dans la perturbation l'éternel perturbateur. Donc il ne peut pas y avoir, et ça je reprends un peu ce que disait Jacqueline Arnaud aussi, il ne peut pas y avoir une continuité, Kateb c'est pas Paul Valéry quoi, enfin c'est, ça n'a absolument rien à voir, parce qu'il n'y a pas une continuité construite.
Il a peut-être légitimé en revanche une certaine littérature, il a peut-être constitué vraiment une référence qui a donné du pouvoir symbolique à des écrivains.
Absolument oui. Vous pensez à des écrivains autres que lui ou à lui-même ?
Oh, plutôt à des écrivains autres que lui, qui dans son sillage, du coup, se sont autorisés peut-être à écrire d'une
Absolument.
Certaine façon.
C'est-à-dire que, en fait, j'avais développé ça il y a quelques années dans un article montrant que Kateb était un petit peu le père de la plupart des écrivains qui lui ont succédé. Et en particulier, dans l'histoire de la littérature algérienne, on s'aperçoit que si avant Kateb, il y avait beaucoup de descriptions de la société traditionnelle pour la faire connaître à la société française, eh bien après Kateb, il n'y en avait plus.
Il a littéralement débarrassé la littérature algérienne de tout ce qui est pittoresque.
Voilà, il l'a débarrassé du pittoresque parce que le pittoresque, la description, dans une description, il y a toujours un rapport de force. Celui qui est décrit est en fait au pouvoir de celui qui le décrit, qui va apporter le système de valeurs qui lui permettra de donner un sens à ce qu'il décrit. Ouais. Mais et ce n'est pas celui qui est décrit qui pourra donner le sens.
On peut dire aussi que quand même, il a fallu longtemps avant que on considère que Kateb Yassine était autre chose qu'un écrivain du pittoresque. Il y a cette phrase célèbre, on en parlera je pense jeudi en particulier, de ce journaliste français, je crois que c'était Dumayet, qui lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne vous occupez pas de décrire les moutons ? Vous avez de si jolis moutons en Algérie ?»
Il y a une anecdote sur les moutons que Ben n'a pas racontée hier, je crois, qui est assez pittoresque. Mais enfin bon, ça nous sort du sujet d'aujourd'hui. Enfin, Kateb se voulant, avec son ami ici à Rem, se voulant le guide révolutionnaire des moutons, entre autres. Et donc, il se promène dans la campagne et il trouve un enclos avec des moutons. Ils ouvrent la barrière et ils se mettent à haranguer les moutons pour leur dire « Ben voilà, prenez votre liberté, sortez !» Et les moutons se réfugient dans un coin et ne sortent surtout pas, quoi.
Alors, on continuera d'en parler des moutons et d'autres choses, Charles Bonne, tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est les conseils de lecture de Georges Marc Habib.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à vous Georges Marc Habib.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes libraire dans le 20e arrondissement de Paris, à la librairie L'Atelier, c'est rue du Jourdain. Et c'est une librairie qui est membre du réseau Librest. Alors vos conseils de lecture, aujourd'hui, sont en lien avec notre sujet du jour, je crois.
Finalement, j'espère. On croit toujours, on pense toujours être en lien un peu avec cette actualité que vous nous proposez. Moi, je me suis rendu compte que finalement, mes choix de lecture étaient quand même influencés par vos choix d'émissions.
On espère avoir une modeste influence.
Une très, très forte influence, malgré tout, et malgré moi. Et donc, finalement, moi qui me croyais libre, on peut se demander si je le suis tout à fait. Ceci dit, je vais quand même vous parler de mes dernières lectures, dont le livre de Atik Raïmi, qui s'appelle « Les porteurs d'eau », qui est édité chez POL. Atik Raïmi, rappelez-vous, il avait reçu en 2008 le prix Goncourt avec son roman « Singe Sabour ». Il est afghan, il écrit en français, et ce n'est pas sa langue maternelle. Là, dans « Les porteurs d'eau », il nous transporte en 2001, à cette fameuse époque où les Bouddhas de Bamiyan, en Afghanistan, avaient été détruits par les talibans. Ça, quand même, ça avait bouleversé le monde entier.
Tragédie, hein,
c'est vraiment une tragédie. Et donc, il va nous mettre en scène deux personnages qui vont se répondre l'un l'autre. Tom, d'un côté, qui est suite à une nuit d'insomnie, se pose des questions sur sa vie et décide, à 45 ans, de prendre la décision de quitter femme et enfant et d'aller rejoindre sa maîtresse à Amsterdam. Tom, il est afghan d'origine, il a fui l'Afghanistan quelques 25 ans auparavant avec sa femme, justement. Depuis ce temps-là, il essaye de camoufler camoufler ses origines afghanes. Finalement, il efface son identité, hein, et il essaye de vivre comme un bon Français. Il a même francisé son nom, donc Tom plutôt que Tamine. Mais malgré tout, il a peur il ne sait pas comment se retrouver. Et il décide, il pense que cette décision va l'aider à se retrouver. De l'autre côté, on a Youssef qui, lui, vit à Kaboul. Youssef qui a à peu près le même âge que Tom, qui est porteur d'eau, c'est-à-dire qu'il a la charge d'une source secrète. Et cette source a une importance fondamentale dans cette période-là, puisque c'est la grande sécheresse à Kaboul, et il est le seul qui est capable d'alimenter en eau, et gratuitement, les gens qui le sollicitent pour ça. Et lui aussi sort d'une nuit très difficile parce que il est en charge de la femme de son frère, Chirine. Son frère ayant disparu, il a la charge, lui, en bon musulman, de s'occuper de cette femme, et il n'ose pas s'avouer être amoureux et désirer cette femme. Voilà.
C'est un peu l'histoire de Nejma, du coup.
Bah, hein. Voilà, il y a quand même des choses qui se chevauchent, quoi. Et évidemment, le destin de ces hommes ne va pas être celui qu'on attendait. Atik Rahimi, lui, nous transporte dans ce bouquin, mais vraiment, en alternant ces chapitres entre Tom et Youssef, il nous bascule comme ça de la France à Kaboul, mais avec cette question d'identité afghane et cette question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et notamment de cette grande identité musulmane qui est une vraie question, et notamment avec la destruction des bouddhas, parce qu'il y avait beaucoup de bouddhistes en fait en Afghanistan. Voilà.
Alors Les Porteurs d'eau, c'est un livre POL. On va maintenant passer du côté de chez Gallimard pour Les Confessions d'un anarchiste, le roman de Pariza Reza.
Alors elle est née à Téhéran. Donc, elle est arrivée en France dans les années 80, et elle nous situe son roman en 1906, là où a été proclamée, la première constitution en Iran, qui était une constitution, une monarchiste. Mais moi, je ne savais pas du tout que ça datait d'aussi loin. Et le roman, en fait, est dans les mains d'un Français qui a fui et qui est venu émigrer en Perse en 1892, mais la Perse qui s'appelait déjà l'Iran, hein, mais que lui fantasme encore comme la Perse. Et on va suivre toute son histoire à travers son journal qu'il va tenir dans cette année 1906, pendant justement cette révolution constitutionnelle. Cet homme, il a fui Paris, il a fui la France parce qu'il était communard. Et il se retrouve plongé en plein cœur d'une révolution qu'il a mis de côté. Quand il est arrivé en Iran, il était français, donc d'une aura incroyable de français, il s'est fait embaucher par la bourgeoisie locale pour former les jeunes enfants à la langue française, qui était la langue, on va dire, de la culture dans le monde, hein, encore à l'époque, et notamment là-bas. Et donc, il s'est embourgeoisé, et quelques 15 ou 17 ans après, il se retrouve plongé dans le même type de révolution que la France.
Voilà. Il veut refaire la même révolution ?
Ben, pas lui, lui, il aimerait bien échapper à ça, mais finalement, il accompagne ce jeune prince dont il s'occupe depuis des années, dans cette révolution, et il finit évidemment par s'y engager.
Le dernier livre dont vous voulez nous parler, c'est celui de Paola Pigani. Ça s'appelle « Des orties et des hommes » et c'est aux éditions Liana Levi.
Elle est d'origine italienne, Paola Pigani, hein, ça pouvait se comprendre. Et là, à travers ce roman, elle nous raconte son enfance, sous forme romanesque, son enfance dans la campagne charentaise où ses parents, émigrés italiens, s'occupaient d'une ferme. Mais ce sont ces paysans pauvres de l'époque, c'est-à-dire ces paysans qui n'étaient pas propriétaires de leurs terres, pas propriétaires de leurs fermes, mais locataires, et qui se retrouvaient face à la difficulté de la vie d'un paysan finalement assujetti un peu comme un serf finalement, situation de
métayer.
Serf. Un métayer, exactement. Et on est dans les années 70 en France. Donc pour faire échapper leur fille à cette situation, ils l'envoie en pension, et c'est justement la vie de cette jeune fille qui va se promener de la pension dans laquelle le monde, on va dire, est plus protégé, le monde est plus civilisé, à la campagne dans laquelle elle a la liberté, la ferme, les animaux, mais aussi la dureté de la vie sociale et économique.
Voilà, ça donne envie. Également, ce troisième livre que vous nous conseillez aujourd'hui, « Des orties et des hommes », donc chez Liana Levi. Merci beaucoup Georges Marc Habib. On vous retrouve à la librairie de l'Atelier du lundi au dimanche matin, et bien sûr sur librest.com. La compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. Nous poursuivons cette semaine consacrée à Kateb Yassine par un parcours de l'œuvre avec l'universitaire Charles Bonne.
J'ai au début, évidemment, essayer moi aussi les formes traditionnelles. Ce n'est pas par refus arbitraire que je m'en suis par la suite passé. Et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle traditionnellement le récit, c'est-à-dire l'écriture relativement simple qui consiste par une ligne à juxtaposer arbitrairement des situations et des actions et des atmosphères, enfin tout ce qui compose un roman, je me suis rendu compte que ça restait enfin très en deçà de ce que je voulais dire. Et j'ai été en définitive saisi par une sorte de vertige de l'expression qui a finalement été pour moi le centre même de la création poétique et littéraire. À partir du moment où j'ai été amené à rejeter toutes les anciennes formes, ce vertige lui-même me ramenait toujours au même point, le point d'où je partais et d'où je revenais, toujours insatisfait.
Qu'est-ce que vous retenez de ce que disait Kateb Yassine dans cet archive de 1963, Charles Bonne ?
Justement, ça fait une bonne introduction à ce que vous annonciez, au fait qu'on allait parler de la dimension psychanalytique. Hein, parce que ça me permet de faire le lien entre une écriture, comme il le fait lui-même dans ce qu'on vient d'entendre, entre une écriture très simple. Narrative, premier degré, tout à fait, style de roman traditionnel, que l'on trouve dans 3 des 6 parties du roman, qui sont les parties les plus faciles à lire.
Où il n'est pas question de Nejma, c'est ça ?
Pardon ?
C'est les parties où il ne parle pas de Nejma.
Bien sûr, dans le roman Nejma. Donc c'est la première, la deuxième et la cinquième partie. Au contraire de ça, vous avez la troisième, la quatrième et la sixième partie qui sont d'une complexité énorme. Mais précisément, ce sont les parties qui tournent autour de ce qu'on ne peut pas dire avec un langage clair, hein, c'est-à-dire ce qui tourne autour de l'origine, de l'inceste sans forcément que l'inceste soit évident, d'une grande quantité de zones d'ombre qui sont du ressort de la psychanalyse et qui sont l'écriture véritablement originale, même si c'est les parties les plus difficiles à lire pour le lecteur.
Est-ce que dans son travail, dans sa manière de travailler, il y avait chez lui une forme, alors il travaillait beaucoup, il retravaillait aussi énormément, mais d'écriture pas automatique au sens des surréalistes, mais quelque chose qui pourrait laisser passer quand même l'inconscient.
Absolument. Cette dimension est essentielle chez lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas le réduire à quelque chose de théorisé. Kateb ne théorise jamais son écriture. Alors, là encore, il le fait un petit peu dans ce qu'on vient d'entendre, mais à peine, quoi.
C'est peut-être pour ça qu'il explique très souvent, un peu comme un leitmotiv, que chaque fois, ses plans sont bouleversés.
Voilà, oui.
Alors, peut-être dans la vie, mais
ça,
surtout
c'est aussi
dans
la
littérature.
La vie que dans l'œuvre. Hein, c'est-à-dire, bon, tout à l'heure, je le citais quand il disait être dans la perturbation, l'éternel perturbateur.
Donc il recherche ce bouleversement constant.
Il recherche. Je crois que c'est dans sa nature. À la limite, ce n'est même pas une recherche systématique. Je crois que c'est d'abord dans sa nature profonde.
Et ça lui permet, du coup, de transcender
de
tous les genres. Que ce soit le roman, on l'a dit, le théâtre,
voilà,
la poésie, le journalisme.
De passer d'un genre à l'autre, et d'abord de casser le modèle traditionnel du roman, mais de passer d'un genre à l'autre en permanence. Et vous avez eu raison de dire tout à l'heure que dans tous les chapitres de son roman, on a des passages qui sont d'autres genres que le genre romanesque.
Alors, il faut parler du deuxième grand roman de Kateb Yassine, qui s'appelle donc Le Polygone étoilé. On peut peut-être commencer par analyser un petit peu ce titre, qu'est-ce qu'il signifie ?
Il y a eu plusieurs interprétations possibles. Je crois que le polygone étoilé, c'est quand même disons l'interprétation officielle, c'est le polygone des fusillés. C'est-à-dire que c'était le terrain où pendant la guerre d'Algérie, on fusillait les résistants. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi dans le polygone étoilé, il y a le symbole de l'étoile dont on parlait déjà tout à l'heure avec le prénom de Nejma, qui est, effectivement, ceux qui étaient fusillés, c'était les nationalistes. Mais il y a aussi l'éclatement.
Le polygone lui-même, de la même façon que l'étoile, est une figure, c'est pas le carré, ni le rectangle. Hein, c'est une figure qui n'est pas non, les côtés du polygone ne sont pas non plus égaux. Et donc c'est une figure indéfinie qui permet toutes les interprétations possibles.
Alors c'est un roman qui commence par une scène, si l'on peut dire, ou un récit d'enfermement, de torture même.
Ouais. C'est, disons que c'est très curieux. Je peux peut-être raconter une histoire personnelle.
Allez-y, bien sûr.
Il se trouve que le polygone étoilé a été ma découverte de la littérature maghrébine, pas encore de Kateb lui-même, mais c'est parce que je ne connaissais à l'époque où j'étais étudiant et jeune professeur, ben on ne parlait absolument pas de cette littérature dans l'enseignement que j'ai reçu. Donc j'ai découvert par hasard en tombant sur le polygone étoilé dans une librairie de Constantine qui depuis est devenue un épicier et j'ai lu ce roman. C'est le plus difficile de toute l'œuvre de Kateb, de très loin, et je dirais même de toute la littérature algérienne.
C'est un peu une excroissance de Nejma.
C'est une excroissance de Nejma, il y a beaucoup de reprises, et c'est pour ça que des jeux disaient que Kateb avait réussi à vendre quatre fois le même roman à ses éditeurs, enfin à son éditeur, c'est-à-dire il y a beaucoup de reprises de Nejma.
Mais pourquoi c'est plus difficile que Nejma?
Parce que la structure est... Il y a en particulier un jeu entre l'autobiographique direct, hein, où il raconte ses souvenirs d'émigrés, les différents chantiers sur lesquels il a travaillé avec Malek Haddad, etc. Et puis, à côté de ça, il y a également les personnages de Nejma qui reviennent, comme dans toutes ses œuvres, effectivement. Hein, et bon, il y a un rapport, c'est essentiellement l'émigration, effectivement, qui est décrite dans tout ça, mais... Pas décrite de façon sociologique. Et donc c'est souvent un peu difficile pour le lecteur de s'y retrouver. Ce qui fait que moi à l'époque j'étais un jeune prof de français très sûr de moi, ce que je ne suis plus maintenant, et j'arrive en Algérie, je lis ce roman, je ne comprends rien. Du coup j'étais vexé comme un pou de ne rien y comprendre, et c'est le fait que j'étais vexé comme un pou de ne rien y comprendre qui m'a fait travailler sur cette littérature.
Mais est-ce qu'il faut le comprendre vraiment? Parce que Kateb Yacine, il travaille sur l'inachèvement, et c'est peut-être aussi l'inachèvement de la du récit, l'inachèvement de la compréhension aussi.
Ça, je l'ai compris ensuite. C'est tout à fait, effectivement. Si vous cherchez dans l'œuvre de Kateb, une traduction objective, vous vous fourvoyez.
Alors, comment faut-il le lire? Est-ce qu'il faut le réciter tout haut, par exemple?
Il faut se laisser aller. Je crois que, oui, le réciter tout haut, c'est effectivement, parce que c'est une prose très poétique et très incantatoire. Et prose très musicale aussi. Et cette musicalité qu'on trouve aussi dans la construction du roman Nejma.
Puis il y a des scènes quand même très très fortes. Je parlais de la scène de torture qui entame le récit, le livre. C'est proprement saisissant.
Ouais.
Il y en a beaucoup comme ça.
Ben oui, c'est un peu du vécu aussi. Hein, c'est oui, donc il y a ces expériences fortes, et puis il y a, justement, chaque fois les plans sont bouleversés. C'est-à-dire, il y a une autre phrase aussi qui est dans le polygone étoilé, dans le monde d'un chat, il n'y a pas de ligne droite. Donc il se revendique véritablement de ce désordre dans sa... D'ailleurs, moi j'ai trouvé un ordre dans la construction de Nejma, mais le roman, au départ, quand il l'a livré à l'éditeur, faisait le double du volume final. Et donc il l'a retravaillé avec Jean Cayrol. On ne sait pas trop quelle est la part de Jean Cayrol et quelle est...
Sa part à lui.
J'ai perdu un soir d'été la gaieté des cœurs sans souci. Il est au monde du sang vert, quelque chose comme un fanion de mauvaise chimère. Et je sais combien l'espoir est vieux au cœur sanglant. Dire au diable ce que je souffre et puis le baiser sur sa corne, il est un désir que mon cœur hésite à avouer et c'est celui de sangloter quand pleurent les colombes. Peut-être aux cieux d'Égypte trouverai-je une pyramide d'amours inassouvis. Je boirais bien un fût de nostalgie si je trouvais aux yeux que j'aime la transparence du cristal. Comment trouver le moyen de pleurer sans le terrible soulagement de l'onde?
Un extrait de Soliloque, le recueil de poésie de Kateb Yassine, enfin l'un de ses recueils de poèmes. On l'a découvert celui-là grâce aux éditions de La Découverte en 1991. Alors on parlera peut-être particulièrement du théâtre demain, mais j'aimerais qu'avec vous on s'arrête un petit peu sur la poésie, même si la poésie, en effet, elle est partout, elle est déjà dans Nejma. Est-ce qu'on a besoin d'en parler spécifiquement? Peut-être même pas.
Oui, moi, on peut pas parler spécifiquement, je crois, de la poésie. Je vais peut-être juste dire deux mots du seul poème disons en vers. Dans Nejma, je crois que c'est le seul. Il se trouve que c'est un poème, le texte le plus ancien du roman, hein, qu'il a écrit immédiatement après les événements du 8 mai 45.
Ouais. Et là où on comprend aussi comment il fabriquait ses romans, voilà. C'est-à-dire par fragments.
Par fragments, et en fait, il dit lui-même, quand on lui a demandé d'expliquer un peu la structure du roman, il a dit « Oh, c'est pas difficile, j'avais une avance de mon éditeur,
il fallait fournir quelque chose.
Contrepartie, qu'à telle date, il fallait que je remette le texte, et puis la veille, j'avais rien fait, quoi. Donc, j'ai puisé dans mes tiroirs, j'ai pris des textes pêle-mêle, je les ai mis ensemble, et j'ai apporté tout ça à l'éditeur. »
Il le dit très simplement, il n'y a pas de mythe du grand écrivain.
Non, il n'y a pas de... C'est la simplicité de Kateb. La personnalité, il se trouve que je l'ai rencontré, et c'est un homme d'une... Autant dans son œuvre, il y a une violence terrible, autant la personne sait être à la fois très violente. Il a dit des choses très méchantes sur Camus, par exemple. Ouais. Alors qu'il doit énormément à Camus.
Sur Jean Sénac aussi, qui était son ami.
Jean Sénac aussi.
Qui prenait l'autostop, qui faisait de l'autostop Paris-Bruxelles pour aller voir des spectacles de Kateb Yassine. Ça n'empêchait pas, de temps en temps, de le traiter de pilleur d'épave en jouant sur le mot Jean Sénac, Jean Sarac, ça veut dire voleur, hein, c'est ça, Sarac?
Oui, il le traitait plus bas que terre. Mais ça, il y a à la fois une violence chez lui, et puis une douceur comme j'en ai rarement vu chez d'autres personnes, quoi. Pas seulement des écrivains, quoi.
Mais il y a un titre de livre qui résume peut-être un peu ça, d'un livre de Kateb Yassine, c'est Le poète comme un boxeur. Ouais. Il était vraiment cela, à la fois un poète et un boxeur. Ouais.
Tout à fait. Et là, c'est un recueil de textes qui tourne autour de cette violence, à côté d'une très grande douceur.
Donc, il était poète et révolutionnaire. Est-ce qu'il faisait de la poésie en tant que révolutionnaire? Est-ce qu'il faisait...
Oui, il y a des textes. Disons, c'est surtout son théâtre tardif, hein, qui est un théâtre d'agit-prop, un théâtre politique de contestation à la fois de la colonisation et de l'après-colonisation.
Parce que dans Le poète comme un boxeur, il a cette double phrase quand il dit « Le poète combat le militant combat le poète ». C'est toujours ça chez lui. Il n'arrive jamais finalement à trouver le bon milieu.
C'est un peu autour
milieu.
De ça que je construis toute mon approche de l'œuvre. Là, vous avez touché, je crois. Et il y a aussi le fait, c'est la raison pour laquelle il a rompu avec Alger Républicain.
Donc le journal dans lequel il a travaillé.
C'était le journal
très jeune,
communiste d'Alger à l'époque coloniale, dirigé par Henri Alleg, l'auteur de La Question.
Oui, sur la torture.
Et lequel Henri Alleg a toujours voulu ramener la signification de l'œuvre de Kateb au militantisme communiste, alors que oui, sa maison était tapissée de slogans communistes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, il y avait chez lui un sens de la dérision qui empêchait complètement d'adhérer. Et c'est là aussi qu'il y a une promotion, je dirais, de la complexité. Oui. Le littéraire, comme ce qui est de l'ordre du psychanalytique, ça peut pas être la simplicité binaire de l'idéologie.
Alors, on a dit tout à l'heure qu'il était l'un des pères de la littérature algérienne. Vous retournez peut-être en Algérie régulièrement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est lu aujourd'hui par les plus jeunes? Est-ce qu'il est étudié à l'université? Est-ce qu'on le voit dans les librairies?
Tout à fait, il est étudié en fac, il est réédité. Le nombre de rééditions de Nejma, ça se compte plus, quoi. C'est bon, faut dire aussi que c'est au programme des deux côtés de la Méditerranée, et que donc, bon, ben, c'est aussi pour des raisons scolaires, hein, que c'est très souvent réédité. Le Polygone étoilé est nettement moins réédité que Nejma, parce que Nejma entre dans les programmes à cause peut-être d'un malentendu d'interprétation. Avant l'approche du texte, hein, parce que justement, ce qui est intéressant, ce qui pour moi est intéressant chez Kateb, c'est qu'il est entouré de malentendus de lecture.
Merci beaucoup, Charles Bonne. Je rappelle que vous êtes professeur émérite, notamment à l'université Lyon 2, auteur de Kateb Yassine Nejma, publié d'abord au PUF, puis aux éditions de l'Harmattan en 2009. La compagnie des auteurs vous a été proposée aujourd'hui par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Alexandre Dang. On se retrouve demain pour un nouvel épisode consacré à Kateb Yassine. Nous parlerons de son théâtre. Ce sera avec l'artiste et docteur en littérature, Rabah Soukeal. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé pour ses lectures de poésie.
Bonjour, bonjour la compagnie. Oh les Pays-Bas, très haut, nous l'avons déjà dit hier. On peut les situer sur la carte ou alors dans une tradition dite néerlandaise entre peinture et poésie. Tradition, oui, ça ne veut pas dire arrêt ni fixation, limite à l'imagination. Non, comme toute poésie, elle est cette forme littéraire très, très ancienne qui occupe tout son temps à changer de forme. Dès qu'elle se fige, elle meurt. Nous partons avec Astrid Lampeu, invitée du marché de la poésie à Paris. Nous habitons des formes pauvres, articulons par à-coups. En poésie seule, nous singeons les oiseaux. Dans la forêt de brume étrange, nous détonnons. Et tout ce que nous ne voyons pas, mais soupçonnons d'autant plus, nous voulons le montrer. C'est le nominal de la poésie qu'elle a. On suit, allez, on enchaîne. Hollands Deep, mon professeur de traduction, prend mes phrases pour des robinets. Je fais exprès de donner ma langue au chat. D'après la vérité nue, dit-il, la poésie coule. Il flanque un ciel hollandais par-dessus et les jupes de ma langue maternelle se gonflent, se déploient, mélangent chaud et froid, captent le courant d'air, sortent de pays de cocagne en dentelle de Bruxelles à vendre sous le manteau. Maintenant, qu'en transe, mon prof tire un ruban attractant à travers une lessive claire, mène la vache en terrain dégagé où urinent toutes mes bébêtes. Nous débordons. Arrêt dans le poème. Et si on lisait Simone Atangana Bekono, c'est un poème inspiré du film Les Habitants de 92, un film d'Alex Van Warmerdam. Écoutez ça. Lumumba va faire un petit tour à vélo. Sous haut de forme et cape flottante, le héros, la légende, au sourire affable, le toujours charismatique, dramatique et, à l'occasion, en particulier dans son éloquence et sa rhétorique, tout à fait imprévisible, premier chef du gouvernement élu démocratiquement dans le Congo libéré et renouvelé. Là, on remonte aux années 60. Patrice Lumumba, du mouvement national congolais, Donalua au Katanga, catapulté ensuite sur le plateau d'un film, revêtu de son uniforme, cheveux peignés et pieds grésillants encore, à peine sorti du tonneau d'acide sulfurique, d'où il a dû dégager son corps avant de s'installer renfrogné sur une chaise pliante à côté du metteur en scène. Le problème de Lumumba, c'est que la mort par balle cause des troubles de la motricité. Personne ne s'attendait que l'homme qui, par sa faconde, a fait d'une colonie une nation, ne fût pas à même de pédaler sur des pistes arrosées de sable. En apostrophe à cette belle journée, j'ajoute un poème de Cash Shippers, invité du marché de la poésie, tiré de tables déplacées, reportage, recherche, vaudeville. 6 phrases pour s'approcher de la vérité. Underwood. Il ne marchait pas comme un traducteur, il ne parlait pas comme une connaissance, il n'écoutait pas comme un architecte, il ne fumait pas comme un chef de cabine. Il ne riait pas comme un libraire, il ne faisait pas une tête de disque jockey. Intéressant.
Jacques Bonaféric, une semaine qui accompagne donc l'ouverture du marché de la poésie à Paris, dont la Hollande est le pays invité.